9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Nous qui allons, dans moins d'un an maintenant, célébrer le bicentenaire de la mort de Napoléon Ier, nous avons sans doute du mal à imaginer quelle a été l'extraordinaire conséquence de l'épopée napoléonienne sur la France du 19e siècle. Ça a été un impact considérable. L'empereur, en chutant définitivement en 1815, a laissé derrière lui un vide immense. Et les Français qui, alors certains avaient été ses partisans, d'autres avaient été ses opposants, mais en tout cas, tous ont dû composer avec la fin d'un élan, d'une vigueur, d'une fièvre qui avait été unique dans l'histoire. Or, ni la restauration étriquée des Bourbons en 1814-15, ni la monarchie bourgeoise de Louis-Philippe en 1830 ne sont parvenus à combler le vide laissé par l'épopée impériale. C'est Musset, Alfred de Musset, qui, dans les Confessions d'un enfant du siècle, se fait l'écho de ce mal du siècle. Je le cite, Musset. « Trois éléments partageaient la vie qui s'offrait alors aux jeunes gens. Derrière eux, un passé à jamais détruit, s'agitant encore sur ses ruines avec tous les fossiles des siècles de l'absolutisme. Devant eux, l'aurore d'un immense horizon, les premières clartés de l'avenir. Et entre ces deux mondes, quelque chose de semblable à l'océan qui sépare le vieux continent de la jeune Amérique, je ne sais quoi de vague et de flottant, une mer houleuse et pleine de naufrages, le siècle présent en un mot, qui sépare le passé de l'avenir, qui n'est ni l'un ni l'autre et qui ressemble à tous deux à la fois, et où l'on ne sait à chaque pas qu'on fait si l'on marche sur une semence ou sur un débris. » Certains ont tiré de ce sentiment de malaise quelque chose qui s'apparentait au romantisme. D'autres ont cherché à dépasser ce malaise dans une quête passionnée, soit d'un autre régime, je pense bien sûr à tous les républicains, soit en magnifiant le mythe de l'empereur, et de l'empire. Parmi les images impossibles à oublier, évidemment, celle du sacre de Napoléon Ier, le 2 décembre 1804, sacre immortalisé par David sur une immense toile, tout le monde l'a en tête, ce tableau, le décor grandiose de Notre-Dame, l'air concentré de l'empereur, avec sa tenue à la romaine, blanc et or, son manteau écarlate et la manière dont, en tournant le dos au pape Pie VII, il saisit la couronne qu'il va déposer sur la tête de Joséphine, agenouillée là devant lui. Qu'importe si en réalité le sacre n'a pas été tout à fait aussi beau que le peint David, il n'a pas été non plus un instant de réconciliation définitive entre l'héritage de la Révolution et le sacre divin. Mais ce sacre s'est imposé dans beaucoup d'esprits comme un apogée qui trop vite a été emporté par le vent de l'histoire. Il n'est pas étonnant à partir de là que presque un demi-siècle après, le neveu de l'empereur Napoléon Ier, le prince président, puisqu'il a été Louis-Napoléon Bonaparte, il a été élu président de la Deuxième République, il fait son coup d'État le jour anniversaire du sacre, donc le 2 décembre 1851, et pas étonnant qu'avec tout cela, il prépare le rétablissement de l'Empire et son propre sacre. Il voudrait lui aussi être sacré par le pape à Notre-Dame de Paris. On voudrait rééditer en quelque sorte l'exploit de Napoléon Ier. Seulement, il y a quand même un gros problème pour ça, c'est qu'il va falloir convaincre à Rome le pape Pie IX. Autant dire que ce qui commence, c'est une étonnante aventure diplomatique. A priori, Louis-Napoléon Bonaparte a quand même un bel atout pour décider le pape à le sacrer. Celui-ci lui doit une fière chandelle, puisque 3 ans plus tôt, en 1849, alors que Pie IX avait dû quitter Rome chassé par une révolution républicaine, la France s'était mêlée de l'histoire. C'est Éric Anceau qui nous rappelle que la France avait envoyé, la France donc du président Bonaparte, avait envoyé des troupes dans le Latium, au départ pour une médiation armée. Louis-Napoléon avait un petit peu hésité, parce que d'un côté, il savait que s'il secourait tel pape se serait très bien vu dans le camp catholique, dans l'opinion catholique dont il avait grand besoin, mais il savait aussi que dans sa jeunesse, il ne l'avait pas oublié, hein, il avait combattu aux côtés des républicains italiens, il était encore touché par leur cause. Bref, pour des raisons dans lesquelles je ne vais pas rentrer, la situation sur place c'est compliqué, l'armée française s'est finalement emparée de la ville éternelle et elle a rendu Pie IX redevable. Le pape avait une dette envers celui qui était encore président mais qui devenait empereur. Est-ce que ça veut dire que la gratitude papale va faciliter le sacre en 1852 ? Peut-être pas, parce que Louis-Napoléon a eu quand même pas mal de désaccords avec le pape, il doit tâter le terrain. Pour ça, il va devoir envoyer sur place des intermédiaires discrets, efficaces. Il faut qu'il envoie de bons ambassadeurs s'il veut être pris au sérieux par Pie IX. Alors il va mandater deux personnes. D'un côté, un prélat qu'il connaît bien, Monseigneur de Ségur, dont la mère est la future auteure des Malheurs de Sophie, vous savez, Sophie Rostopchine. Et puis de l'autre, le général de Cotte. Le premier Ségur à l'oreille du pape, le second Cotte est un officier proche qu'il envoie en poste au sein de l'armée qui, toujours à l'époque, est en train de défendre Rome. Une manière, si vous voulez, de rappeler au pape ce qu'il lui doit. Du succès de leur mission à tous deux va dépendre, pour le nouvel empereur, la possibilité d'être sacré. Coup de canon, un cœur final, vive l'empereur pour cet hymne à Napoléon III qui a été composé pour l'exposition universelle de Paris en avril 1867. Le chœur et l'orchestre symphonique Giuseppe Verdi de Milan étaient sous la direction de Riccardo Chailly. Mais qui était le compositeur, me direz-vous ? Eh bien, c'était un homme qu'on commençait à oublier un petit peu. Il avait 74 ans en 1867. C'était, eh oui, Gioachino Rossini qui avait composé cet hymne à l'empereur Napoléon III. Regardez comme ils ont l'air sérieux là tous les deux. On est à la fin de l'été 1852. Le général de Cotte, bien sanglé dans son bel uniforme. Monseigneur de Ségur avec le grand camaille et la pourpre cardinalis. Ils sont là tous les deux, bien sérieux, face au pape Pie IX. À première vue, le pape a l'air plutôt aimable, hein. C'est un bon grand-père avec un regard plein d'intelligence, au visage replet, au trait doux. C'est un homme solide quand même, et c'est un homme auquel on ne peut pas la faire. Hein. Le général est en train de le jauger, et bien puisque c'est le cas, le pape lui explique qu'avant de songer à un sacre pour le futur empereur, il y a des questions qui posent encore problème. La loi en France paraît en effet très inadéquate dans le domaine religieux. si le pape se déplaçait à Paris, il donnerait le sentiment de s'en accommoder. Ça, ce n'est pas possible, vous comprenez? Pie IX, en particulier, évoque ces articles organiques que Bonaparte, en son temps, avait cru bon d'adjoindre au Concordat, sans prévenir Rome, bien entendu. Dans un article d'Historia sur cette affaire du sacre de Napoléon III, le cardinal Martin l'explique bien, je le cite. Qu'il suffise de rappeler la teneur du second de ces articles. Aucun individu se disant nonce, légat, vicaire ou commissaire apostolique ou se prévalant de toute autre dénomination ne pourra, sans l'autorisation du gouvernement français, exercer sur le sol français ni ailleurs aucune fonction relative aux affaires gallicanes. Voilà, ça c'était clair. Abolir, nous dit le cardinal Martin, ou tout au moins remanier les articles organiques, apparaissait dès l'abord comme la condition sine qua non. Cela, le président Bonaparte le sait bien, il ne doit pas être très surpris, c'est une négociation diplomatique qui se lance, bien entendu. Dès la fin d'octobre, l'évêque de Carcassonne, Mgr Henri de Bonnechose, est dépêché en toute hâte dans la ville éternelle, avec pour mission de définir le détail des attentes du Saint-Siège. Bonnechose est un homme efficace, il semble acquérir assez vite la confiance de Pie IX. Notons que pendant que sa mission a lieu, en France, on a officiellement rétabli l'Empire. Le coup d'État avait eu lieu le 2 décembre 1851, jour anniversaire du sacre de 1804. L'Empire est rétabli le 2 décembre 1852, toujours le jour anniversaire du sacre. Et évidemment, ça veut dire que quand Bonnechose revient à Paris en janvier 53, avec dans ses papiers une nouvelle mouture des articles organiques, mouture agréée par Pie IX, un éventuel sacre n'est plus une projection théorique. Maintenant, il faut que ce sacre ait lieu. Et Napoléon III va devoir faire une contre-proposition pour aboutir dans la négociation. Ce qui n'est tout de même pas si simple, parce que les demandes du pape sont substantielles. Et puis, j'allais dire surtout, il faut quand même prendre en compte les autres puissances d'Europe. Inutile de vous dire qu'à Londres, par exemple, ou à Vienne, ou même à Berlin, l'idée qu'un sacre en France puisse de nouveau donner la majesté divine à un Bonaparte suscite plus que la méfiance. Il semble quand même délicat que Pie IX, par ailleurs, se rende en France pour sacrer Napoléon III alors qu'il n'a pas fait le même geste pour François-Joseph en Autriche. Certains suggèrent, pour contourner ce problème, que le sacre ait lieu à Rome. Ainsi, Pie IX n'aurait pas à fouler le sol français. Et puis, selon Mgr de Bonnechose, cité par Louis Besson, son biographe, le nouvel empereur, en évitant de paraître comme une contrefaçon de son oncle, établirait quelques similitudes entre lui et Charlemagne. Ben oui, sauf que Napoléon III ne voit pas du tout les choses de cette façon, parce que, ça il s'en expliquera plus tard, lui s'imagine mal aller se faire bénir, sacré, dans une cité où tout jeune homme, il a fait les 400 coups, avec des révolutionnaires qui à l'époque étaient opposés au pape, l'empereur verrait là une faute de goût, et on ne peut pas tellement lui donner tort. Ces questions diplomatiques, pour tout vous dire, ne sont même pas les plus épineuses pour Napoléon III. Il y a pire pour lui, et c'est l'existence de négociations, l'existence de négociations sur ce sacre possible a fuité dans le public, comme nous dirions-nous aujourd'hui. Début 53, des personnes bien informées, n'est-ce pas, ont claironné qu'il serait question de sacrer l'empereur là, dans les mois, peut-être dans les semaines qui viennent. Comme on dirait aussi, Napoléon III a eu du mal à maîtriser sa communication. Là, l'affaire est sensible. Ça suscite énormément de réactions, cette affaire. Tout ce qu'il y a d'hostile au lien entre l'Église et l'État en France crie au scandale. Tous les républicains qui, après tout, ne voyaient pas forcément d'un très mauvais œil ce président Bonaparte sont en train de se dresser contre l'idée inacceptable de ce sacre. L'empereur ainsi braderait les lois françaises pour s'offrir un sacre catholique d'un autre temps. Ça, c'est un argument qui peut toucher Napoléon III, qui sait que toute concession qu'il fera au pape va lui attirer des critiques extrêmement fortes. À l'heure où son règne commence tout juste, il peut donc sembler très difficile, pour ne pas dire même quasiment impossible, de s'exposer sur un tel terrain. Et en même temps, me direz-vous, que serait un empereur sans la gloire du sacre ? Cœur, gloire, gloire à Jupiter de Jacques Offenbach qui commence, vous avez vu, de façon très solennelle et qui finit en opérette. J'allais dire bien sûr, le baryton Laurent Naouri, le chœur et l'orchestre des musiciens du Louvre étaient sous la baguette de Marc Minkowski. Alors, il y a un autre groupe social, si je puis dire, il y a un autre milieu qui est vent debout contre cette idée de sacre de Napoléon III, c'est le monde des légitimistes, à commencer par le premier des légitimistes, le comte de Chamberan personne. Le petit-fils du roi déchu Charles X, qui lui se considère bien qu'en exil comme le souverain légitime de la France et qui estime impossible pour lui de rester bras croisés alors qu'on lui assure un petit peu partout que l'Église songerait à sacrer le régime rival. Vous imaginez, en mars 53, le comte de Chambord prend sa plus belle plume et s'adresse au pape avec grandiloquence. Comme chrétien, comme français et petit-fils de Saint-Louis, je dois à la religion, à ma patrie et à la famille dont je suis le chef, d'en appeler aux inspirations de votre conscience et de votre justice à l'occasion de l'acte qui est en ce moment sollicité de votre sainteté avec de si vives instances. Pardon. Cet acte n'a manifestement d'autre but que de consacrer, s'il était possible, le renversement du droit monarchique et des principes qui sont la base essentielle de l'ordre social. Votre sainteté y consentirait-elle ? Étrangère aux révolutions d'où sont sortis tous nos malheurs, prendra-t-elle sous sa sauvegarde une des phases de ces tristes vicissitudes ? Le pape est un petit peu embarrassé, évidemment. Il répond au comte de Chambord, via un de ses proches venus à Rome. Le ton est à double tranchant, comme souvent avec Pie IX. On oscille entre encouragement et sentence. Pie IX se veut d'abord rassurant. Mais non, les choses ne sont pas si avancées que ça. Il n'est pas certain qu'on ira sacrer Napoléon III. Mais en même temps, le pape signale que s'il devait accéder au souhait de l'empereur des Français, ce serait parce que la religion y trouverait son compte. Voilà un pieux rappel qu'il y a parfois, n'est-ce pas, cher Monseigneur, des sacrifices à faire pour la gloire de Dieu. Enfin, même si Pie IX aime à espérer que le comte de Chambord accédera un jour à la couronne, lui fait-il dire, il l'incite d'ores et déjà à mieux traiter l'Église et la religion que ne l'ont fait Louis XVIII, Charles X et même avant eux, Louis XIV entre autres. Si l'on devait faire la longue liste des papes qui ont eu à souffrir des rebuffades des rois de France, elle est déjà assez longue. Bref. Le pape retourne un peu la situation, vous voyez, il renvoie les Bourbons à leur propre responsabilité. Après tout, pense le Vatican, si la révolution a eu lieu, c'est peut-être aussi un peu à cause des Bourbons. Pendant que ces échanges doux amers ont lieu, à Paris, l'empereur, lui, n'est pas inactif. Il adopte une stratégie différente et joue sur plusieurs tableaux, comme le note le cardinal Martin. D'un côté, il se démène pour démentir les rumeurs qui ont pullulé sur ce qu'il serait prêt à offrir en échange de son sacre. Et puis de l'autre, malgré sa marge de manœuvre assez réduite, il poursuit en sous-main un certain nombre de démarches et notamment, il envoie au pape cette missive très éloquente dont je ne vais vous lire qu'un extrait. je n'hésite pas à affirmer que la venue du chef suprême de l'Église aura pour effet de rallier tout le clergé français, de remuer tous les esprits dans un sens religieux, de donner une nouvelle force au gouvernement pour favoriser la religion catholique, assure-t-il. La présence du pape fortifiera le pouvoir que je tiens du peuple et consolidera en Europe l'autorité monarchique et la paix. Ah, ça, ce sont, c'est vrai, d'assez beaux arguments. Et d'ailleurs, le pape Pie IX est visiblement assez sensible au plaidoyer impérial, puisque, ayant lu la lettre, il aurait lâché « Voici une lettre magnifique ». Seulement, le pape a beau avoir goûté la prose de Napoléon III, il n'entend guère dans cette affaire qui l'engagerait beaucoup rabaisser ses exigences à propos de la fameuse loi française. Aussi envoie-t-il à l'empereur une lettre tout en politesse, mais qui renouvelle bien sûr sa gratitude envers lui, mais qui explique franchement les choses. En résumé, il a conscience que l'empereur n'est pas en situation de parvenir à un compromis acceptable avec le Saint-Siège. Et donc, le pape évoque, si l'on peut dire, une porte de sortie au casse-tête diplomatique. Pourquoi pas un sacre par l'archevêque de Reims, propose-t-il. Certes, ce n'est pas ce que Napoléon Ier avait obtenu, mais après tout, ce serait dans la pure tradition française. C'était toujours l'archevêque de Reims qui sacrait autrefois les rois de France. Là, évidemment, Napoléon III est très déçu par la réponse. L'empereur écrit en juin 1853 au pape qu'il regrette profondément la décision qu'il a cru devoir prendre, tout en renouvelant son désir sincère de conserver son amitié et de lui donner des preuves de son attachement. Ça s'appelle des formules diplomatiques. Si vous me passez l'expression, cette fois, la messe est dite, ou plutôt, la messe ne sera jamais dite. Et pourtant, le zélé Monseigneur de Ségur n'a pas tout à fait dit son dernier mot. Il essaie de relancer l'idée d'une cérémonie à Rome. Mais cette fois, c'est Napoléon III qui le refroidit gentiment. Et l'affaire se termine ainsi. Napoléon III repensera plusieurs fois à son ambition déçue. Et vous savez que en juin 1856, il y a eu bien sûr les immenses festivités pour le baptême de son fils, le prince impérial, festivités qui ont lieu à Notre-Dame de Paris. Et à cette occasion, l'empereur lâchera « Ce baptême vaut bien un sacre ». L'empereur des ondes sacrées par acclamation, j'ai nommé Christian Ier Morin. Bonjour, Majesté.
Mon cher Franck, écoutez, pour un lundi de Pentecôte, je suis flatté.
Pas mal.
Mais vous savez, je n'ai pas besoin d'un sacre de votre part pour vous conserver mon amitié sincère, vous le savez. Donc,
j'espère bien.
Éloignons tout cela. Dites-moi, la couronne de Napoléon III, elle a été revendue, je crois, par la République après.
Ah bon,
elle a disparu complètement.
Ça doit
oui.
faire partie des joyaux qui ont été vendus en 1885. Hein,
voilà, parce que je sais que la couronne de l'impératrice, qui avait été fabriquée aussi, elle, on peut la voir aujourd'hui
alors
au Louvre.
Bien sûr, oui.
Et alors,
la galerie d'Apollon restaurée.
Ce qui est formidable, c'est que le lien va être épatant, car après Napoléon III ce matin, cet après-midi, justement, vous allez parler de quelqu'un qui concerne Napoléon III.
De son épouse, Eugénie. Nous parlerons du long exil de l'impératrice à propos du beau livre d'Étienne Chillot, Eugénie en exil.
Oui, puisqu'ils sont partis donc en Angleterre, il faut le rappeler. Alors justement, à propos de l'impératrice Eugénie, ce qui est amusant, c'est que j'avais envie de vous parler entre Napoléon III et l'impératrice Eugénie de l'inauguration de l'Opéra de Paris. Il y a eu trois phases, puisqu'il y a eu une première inauguration.
Elle a lieu en 75, après tout ça. Hein.
Oui, mais en 1867, il y a eu la première façade qui a été inaugurée.
C'est ça, pour l'Expo universelle.
Voilà, avec Napoléon III, et il y a eu ce petit accrochage entre Garnier et l'impératrice Eugénie qui m'amuse beaucoup, parce qu'elle est un peu déçue dans le style. Elle dit, mais qu'est-ce que c'est que ce style-là? C'est pas un style, ce n'est ni grec, ni Louis XV, pas même du Louis XVI. Et Charles Garnier lui avait répondu élégamment, non, ces styles-là ont fait leur temps, vous savez, c'est du Napoléon III et vous plaignez. Donc, je trouve ça assez amusant, même osé de sa part. Et puis après, il y a eu l'inauguration définitive législative en 1875, mais cette fois avec le président de la République, Mac Mahon. Donc.
Et sans Garnier, qu'on avait oublié d'inviter au passage.
Mais oui, alors ça c'est une histoire, racontez-le, ou alors il faudrait y revenir un jour. On avait oublié de... Est-ce que c'était pas volontaire un peu parce qu'il avait servi Napoléon III, c'est
oui, il était beaucoup trop marqué par le précédent régime, et donc le nouveau régime avait décidé, surtout qu'on était en train d'asseoir la République en 75, on avait décidé de ne pas l'inviter, il a donc dû prendre sa place, il a acheté son billet comme tout le monde pour assister à l'inauguration de son propre opéra.
Oui, cet opéra qui est quand même magnifique, il faut bien le dire. Puis un jour, on parlera peut-être du lustre. Écoutez, mon cher Franck, je vous souhaite une excellente journée, un bon lundi de Pentecôte, et puis à tout à l'heure, bien sûr, et à demain matin. Bonne journée.
Bonne journée.